Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Il y a des enfants qui mangent tous les jours, mais ils ne mangent pas ce qu'il faut manger. C'est ça qui est important.
Ce n'est pas la pauvreté qui fait que les enfants sont malnutris. C'est un manque de communication. Regarde ceux qui sont sur l'eau. Ils pêchent le poisson, mais ils vendent 75% au marché. Ils gardent 25% à la maison. Et c'est les personnes âgées seulement qui consomment. On dit que l'enfant n'a pas droit au poisson.
En 2023, on a été capable d'envoyer des touristes sur l'espace. Mais là, en 2023, on n'est toujours pas capable de nourrir la population. Ce problème de malnutrition, est-ce qu'au final, ce ne serait pas un problème politique?
On est dans un environnement qui est de plus en plus envahi par des aliments qui sont importés, ultra transformés, trop salés, trop sucrés, trop gras et qui représentent en soi un danger pour la santé des enfants de la région.
Produisons africains aux normes qualitatives, quantitatives pour une Afrique meilleure.
Milliards de voisins. Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. On va parler de l'Afrique face au défi de l'alimentation infantile. Produire africain des ingrédients de qualité pour nourrir tous les jeunes enfants de 6 à 23 mois sur le continent, oui, c'est possible. À condition que tous les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre adoptent des politiques alimentaires communes. Alors forcément, plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, malgré les crises économiques et climatiques, l'Afrique a tous les atouts pour relever le défi et bien nourrir ses enfants, des terres riches, disponibles, de la main-d'œuvre, des aliments locaux, naturels et non transformés, et des entrepreneurs à la tête de PME investis pour ce droit fondamental, l'accès aux enfants à une nourriture riche et équilibrée. Alors comment parvenir à l'autonomie alimentaire? Quelles sont aujourd'hui les contraintes pour les agriculteurs et les transformateurs? Comment soutenir les PME africaines de l'agroalimentaire pour être plus compétitives face à l'importation de produits ultra transformés, nocifs, à faible coût qui casse le marché. Voilà, tous ces sujets ont été abordés en septembre dernier à Cotonou lors d'un forum public-privé pour les premiers aliments de l'enfant organisé par l'UNICEF. L'Afrique face au défi de l'alimentation infantile, c'est un reportage d'Igor Strauss réalisé par Romain Dubrac qui débute au marché aux poissons de Cotonou.
Souvent les bébés ici, on les nourrit au lait maternel. À part ça, quand ils ont aux environs de 5 mois, 6 mois, on leur donne de la bouillie. De la bouillie enrichie, à part du maïs, du mil, du sorgho. Bon, on fait un peu de mélange. Aux environs de 9 mois à 1 an, on commence par leur donner un peu de manger, ainsi de suite. Bon, c'est comme ça, moi, j'ai fait pour mes enfants. Comme... Ils ont bien grandi, normalement.
Et maintenant, ils mangent quoi? Donc maintenant, ils ont 5 ans, 6 ans, c'est ça?
Oui, ils ont 5 ans, 6 ans. Le matin, ils prennent de la bouillie. Ou bien du thé, à midi, du riz, de la pâte de spaghetti, ça dépend. Les soirs aussi, ils prennent du moins, comme les adultes, pour le moment.
Est-ce qu'ils mangent un peu de poisson, de
oui,
la viande?
Oui, ils prennent du poisson, de la viande, des œufs. Bon, souvent, il y a certains enfants qui sont mal nourris, du point où il n'y a pas toujours des protéines, par exemple le poisson, la viande, les œufs sur leur nourriture. Il y a certains enfants qui sont mal nourris quand même.
Vous faites quoi comme métier? Vous travaillez ici au marché?
Oui, moi je vends du poisson.
Ah, donc du coup c'est plus facile pour avoir du poisson et nourrir les enfants?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et vous vous appelez comment?
Je m'appelle Marjolaine.
Marjolaine?
Oui.
Marjolaine. Vous avez quel âge Marjolaine?
J'ai 26 ans.
Et combien d'enfants?
J'ai 2 enfants.
Bah, merci beaucoup.
Merci à vous aussi, bonne journée.
Bonne journée madame.
Oui, merci.
Bonjour. Vous vous appelez comment, madame?
Moi, je m'appelle Johnson Sophie.
La petite, c'est votre fille?
C'est ma fille.
Elle a quel âge?
3 ans.
C'est votre seule fille ou vous avez d'autres enfants?
J'ai 2 garçons, une fille.
Moi, je m'interroge sur la nutrition des enfants. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger à votre fille?
Haricots, riz, la pâte aussi. Jeune d'œuf avec haricots blancs préparés. Je mélange ça et je lui donne. Elle mange.
Et est-ce qu'elle mange comme vous ou est-ce que pour elle, vous faites un repas spécial?
Quand j'ai l'argent, là, je fais un repas spécial pour lui. Mais quand je n'ai pas d'argent, là, ce que je mange, c'est ça qu'elle-même mange.
Et vous travaillez ici au marché?
Oui, je vends ici poisson.
Ah, vous vendez du poisson?
Oui.
Donc pour vous, c'est facile d'avoir le poisson, quoi?
Non, ce n'est pas facile. Hein.
Ah non.
Ce n'est pas facile du tout. Parce que les gens peuvent aller aux pêches, ils vont venir maintenant, ils ne veulent pas trouver poisson. C'est compliqué un peu. Hein. Si tu n'as pas d'argent, là, tu ne peux pas nourrir l'enfant. Maintenant, l'enfant peut dire, maman, je vais acheter yaourt. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter.
Et ça arrive souvent que vous ne puissiez pas acheter?
Ça arrive souvent.
Ça arrive souvent.
Oui, ça arrive souvent. Ici, avant de gagner l'argent, là, c'est compliqué. Parce que si tu as acheté quelque chose, tu vas promener jusqu'à... Tu vas vendre la sympa. Facile. C'est compliqué.
Vous connaissez-vous des mamans qui ont du mal à nourrir les enfants?
Je connais beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Moi, mais avant de nourrir mes enfants, là, je souffre trop avant de nourrir mes enfants. Depuis 3 ans, mon mari a voyagé, c'est moi seule qui débrouille. Les enfants mangent. C'est compliqué de nourrir les enfants parce que c'est moi seule. Quand je n'ai pas d'argent pour nourrir les enfants, là, je demande. Si je connais quelqu'un, là, je vais aller chez lui. Par exemple, j'ai trouvé 200 maintenant, là. Je peux, bien 300 même, je peux acheter charbon, 50 francs. Et je vais acheter piment, je vais acheter maïs crasé là. Je vais préparer la pâte pour les enfants. Moi-même, je peux rester comme ça. Les enfants veulent manger moi-même. Je peux rester comme ça pour dormir. Pour moi, là, ce n'est pas rien. Mais pour les enfants, qui importe pour moi?
Ah, vous êtes courageuse, hein?
On rend grâce à Dieu.
Et les enfants, ils vont à l'école?
Non. Parce que je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de moyens pour acheter kaki, fumtu, là. Pas d'argent. Quand j'ai trouvé l'argent maintenant, aujourd'hui, on mange ça aujourd'hui. Demain, j'ai trouvé l'argent là, on mange. Je n'ai pas de koromi. C'est à cause de ça. Parce que c'est moi seule. Demain, là, c'est eux qui vont me nourrir. C'est eux qui vont me supporter. S'ils ont des meilleurs à venir, ils peuvent me supporter, ils peuvent me nourrir. S'ils n'ont pas de meilleurs à venir là, ne peut pas me supporter, ne peut pas me nourrir. C'est à cause de ça que je souhaite le meilleur avenir pour mes enfants.
L'enfant, ce n'est pas un petit adulte. Vous et moi, on peut peut-être manger du riz et un peu de sauce de tomate 30 jours sur 30. Peut-être ça va être ok, mais un enfant il peut pas vivre avec ça. Et c'est sûr que si vous lui donnez du riz tous les jours, il va développer la malnutrition. Je suis Siméon Nanama, conseiller régional nutrition pour le bureau régional de l'UNICEF qui s'occupe de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar au Sénégal. La malnutrition pendant longtemps a été considérée comme un problème d'ordre humanitaire. De ce fait, elle était déléguée aux acteurs humanitaires, au système des Nations Unies, aux ONG. Mais de plus en plus, on est en train de découvrir que la malnutrition, notamment la malnutrition chronique, est un problème de développement. Grâce aux travaux de la Banque mondiale, on sait aujourd'hui que l'absence d'action contre la malnutrition coûte extrêmement cher à nos pays. Et c'est clair que si nous continuons à faire les choses comme nous le faisons, on ne va pas y arriver. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous tenons ce forum, parce que nous pensons que nous n'avons pas suffisamment travaillé au cours des années passées sur le volet alimentation des enfants. Par exemple, il n'y a que 18% des enfants de 6 à 23 mois dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont accès au nombre recommandé de groupes d'aliments, qui est 5 groupes d'aliments sur 8. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'UNICEF, en s'inspirant des indicateurs de l'OMS, a développé le concept de pauvreté alimentaire des enfants. Et je pense que les pays commencent à prendre de plus en plus conscience de l'importance de regarder à la problématique de la malnutrition, pas seulement comme un problème de survie, comme un problème humanitaire, mais aussi comme un problème de développement. Et donc on a besoin que tous les acteurs aient cela en tête, que les gouvernements comprennent cela. Et quand on reconnaît le lien qu'il y a entre une bonne nutrition pendant l'enfance et la capacité à être un adulte producteur, on doit évidemment investir dans la nutrition, qui, encore une fois, est un droit. Ok, un droit auquel la plupart de nos pays ont adhéré.
Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Vous étiez donc à Cotonou en septembre dernier pour le forum public-privé pour les premiers aliments de l'enfant et c'était organisé par l'UNICEF.
Oui, et c'est par une fable de Jean de La Fontaine que Salvatore Niozima, le représentant des Nations Unies au Bénin, a ouvert ce forum. Petit poisson deviendra grand si Dieu lui prête vie, dit cette fable, et Salvatore Niozima d'ajouter malicieusement et qu'il est bien nourri, car c'est bien là que le bât blesse, petit poisson n'est pas bien nourri. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 82% des enfants de 6 à 23 mois n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Des chiffres alarmants qui viennent appuyer une enquête de l'UNICEF de 2021 qui montre bien que les systèmes alimentaires africains ne répondent pas aux besoins des enfants.
Et pourtant, Igor, des efforts ont été réalisés. Hein. La mortalité infantile liée en partie à la malnutrition est en baisse. Elle est passée de 96 pour 1000 en 2018 à 80 pour 1000 en 2022.
Oui. Tout comme la malnutrition chronique a également reculé, passant de 40% en 2000 à 32% en 2023. Mais ce que ne disent pas ces chiffres, eh bien c'est qu'en raison de l'augmentation de la population sur cette même période, eh bien il y a en réalité plus d'enfants malnutris. Ces efforts sont donc vains, Laurence.
Oui, et puis il faut peut-être rappeler quand même que selon les normes internationales, les enfants doivent avoir accès à au moins 5 groupes d'aliments sur les 8 existants.
Oui, car en deçà, eh bien on parle de pauvreté alimentaire. Et en Afrique, eh bien cette pauvreté est partout. Trois groupes principaux font particulièrement défaut, les fruits et légumes, les légumineuses et les protéines animales, des aliments qui sont pourtant présents partout sur le continent africain. Il faut juste augmenter leur production et surtout les rendre accessibles à tous. Espérance Belao Lila est chef d'entreprise dans l'agroalimentaire. Elle a regroupé 12 000 petits producteurs congolais. Elle est également la vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo Kinshasa.
Les défis sont énormes et les difficultés sont énormes. Une maman, je vous donne un exemple, une maman qui se trouve en fin fond du village. Elle ne sait pas travailler des grandes superficies parce que ce n'est pas possible. Elle travaille juste pour nourrir la famille. Et cette dame, quand elle produit, elle doit transformer, elle doit chercher le moyen d'évacuation, ça veut dire de son village, pour atteindre un marché, c'est la croix et la bannière. Et cette femme-là, quand elle arrive au marché, ce n'est pas elle qui impose le prix, c'est l'acheteur qui impose le prix. Cette femme travaille toute sa vie et même quand elle meurt pauvre. J'ai pensé comment arriver à professionnaliser le métier de l'agriculteur. Comment faire de sorte que cette femme arrive à passer de l'agriculture des subsistances vers l'agribusiness. Et c'est là que nous avons poussé ces femmes et notre business model est simple. Les dames qui travaillent avec nous dans nos coopératives et associations paysannes, elles produisent sur base d'un cahier des charges que nous avons contracté ensemble. Elles n'ont plus besoin de chercher les transporteurs. C'est nous qui contractons avec les transporteurs qui vont faire l'enlèvement des produits dans leur village et amener jusqu'à l'usine où nous nous transformons. Mais quand vous arrivez en ville, il y a encore des déficits énergétiques énormes. Et vous ne pouvez pas mettre les solaires pour faire fonctionner un moulin de 10 kVA. Ça vous coûte énormément. Donc les défis sont énormes et c'est là que je dis, il faut faire intervenir de l'État. Le potentiel agricole de la RDC aujourd'hui, plus de 80 millions d'hectares arables. On a des sources d'eau, le deuxième fleuve au monde après l'Amazonie. Tout cela, on pouvait bien produire de l'énergie, on pouvait bien avoir des micro-barrages partout pour permettre l'électrification de pays parce qu'on est capable de tout produire. On a tous les atouts et les potentiels liés. Aujourd'hui, c'est une aberration. En 2021, si je me trompe, la RDC a importé des produits agroalimentaires à hauteur de presque de 2 milliards de dollars. Si on mettait ces efforts-là, financiers, les canaliser comme il se doit pour atteindre justement tous ces petits producteurs, tous ces écosystèmes qui entrent dans la production agricole, aujourd'hui, la RDC est à mesure de nourrir l'Afrique.
La première étape est donc de permettre aux agriculteurs de s'organiser. Juste après arrivent les transformateurs. Et là encore, eh bien, les problèmes sont nombreux. Alimata Koulibaly est une chef d'entreprise ivoirienne à la tête de GLP Les Précuits.
Les dames transformatrices prennent du temps fou pour produire des farines et épices bien assaisonnées, bien de qualité, mais la conservation est trop précaire. Et la transformation, on gagne sur l'économie d'échelle. C'est-à-dire, il faut fabriquer beaucoup, beaucoup pour gagner de l'argent. Or, les femmes, sachant que la conservation est très précaire, elles font de toutes petites quantités, ce qui fait qu'elles ne créent pas assez de plus-value. Donc, elles restent au même stade pendant 20 ans. Alors, à ce forum, moi, j'ai dit, comment industrialiser, comment faire une production de masse pour pouvoir créer plus de richesses, pour que ces femmes-là puissent vivre de leur talent, de leur activité. J'ai échangé avec certaines qui ont dit, il y a 20 ans, mais elles n'ont pas encore pu décoller. Moi, j'ai réussi à décoller parce que j'avais cette vision. Mais aujourd'hui, j'ai un besoin d'industrialiser. Il faut que j'arrive à industrialiser de sorte que je puisse avoir une meilleure conservation. J'exporte déjà en Europe. Pour cela, il faut une longue durée de conservation. 3 ans, c'est l'idéal, mais sans ajout de produits chimiques. C'est ça la problématique. Et j'ai donc échangé avec les chercheurs. Je leur ai dit, trouvez des conservateurs naturels dans nos plantes, il en existe, et faisons en sorte qu'on puisse les utiliser dans la conservation de nos farines. Et ça sera un grand pas vers l'industrialisation et création de la plus-value dans ce métier-là. Sinon, les acteurs de ce métier resteront toujours à un bas niveau par manque de changement d'échelle, par manque de conservation, par manque de production de masse. Parce que quand on a produit beaucoup, on va stocker. Il faut qu'on change d'échelle, comme on le dit chez nous, il faut qu'on quitte dans ça.
Là-haut, vous êtes l'exemple même que ça peut marcher, qu'avec de l'abnégation, oui, grâce à une formation scientifique qui vous a bien aidé à passer à une échelle industrielle, il faut quand même le rappeler. Mais voilà, vous êtes l'exemple que c'est possible. Rétrospectivement, qu'est-ce qui a été l'étape la plus difficile? Et que vous disent les autres femmes transformatrices qui sont ici présentes et qui ne sont pas parvenues à passer à une grande échelle comme vous?
Les plus grandes difficultés, c'est le financement. L'Africain ne consomme pas les produits locaux. Même quand tu as produit, il n'y a pas de clients, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, il faut une grande campagne du consommer local, une grande promotion de nos États pour que nos pays africains, la population africaine, s'adhère à la consommation de nos produits. Parce que les produits africains ne sont pas accessibles. Ce n'est pas physiquement présent dans les supermarchés. Et donc, quand il n'y a pas, on se rabat sur autre chose.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur. C'était Madame Koulibaly Alimata, depuis la Côte d'Ivoire, mais au Bénin, Cotonou, pour le grand forum des premiers aliments des enfants. Septembre 2023. Merci à vous et à très bientôt.
Baby.
C'est Papa Yahoué de Fatih dans 8 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Nous sommes toujours au Bénin pour parler du forum public-privé pour les premiers aliments de l'enfant qui s'est tenu en septembre dernier à Cotonou. Objectif, réfléchir à l'élaboration d'une politique alimentaire commune aux différents États d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour permettre aux enfants de 6 à 23 mois d'avoir accès à une alimentation riche et équilibrée. Car il faut rappeler que 82% de ces enfants sont victimes de ce qu'on appelle la pauvreté alimentaire. L'Afrique face au défi de l'alimentation infantile, c'est la suite du reportage d'Igor Strauss réalisé par Romain Dubrac qui se poursuit avec Edith Mireille de Guenon. C'est la fondatrice de l'Oasis des enfants au Bénin. C'est une PME spécialisée dans les farines infantiles.
Au début, j'avais mis mes farines à un prix très abordable, mais les 18% de TVA sur les farines, et les farines deviennent plus chères même que les produits qui viennent de l'extérieur. C'est ça la grande difficulté actuelle que nous traversons. Les produits coûtent très cher parce qu'il y a les impôts, les taxes fiscales qui s'ajoutent et de notre côté et du côté des grossistes qui nous aident à vendre. Donc ce n'est pas facile. Moi, actuellement, moi, j'ai mis ça à un prix. Les 500 grammes sont à 1000 francs CFA. Ça revient à 100 francs la tasse. Ce n'est pas trop abordable. On aurait aimé que ça soit à 50 francs la tasse pour que le bas peuple, la vendeuse de tomates, peut acheter à son enfant. Toutes les mamans peuvent avoir accès. Mais aujourd'hui, ça devient cher et ça nous fait mal. Et si l'État peut nous accompagner à diminuer un peu le poids fiscal, ça va permettre et à la population de bien consommer nos produits, ça va nous permettre à fabriquer plus, ça va nous permettre d'augmenter le tonnage et ça va permettre aux producteurs des grains, des céréales, de nous vendre beaucoup et ça va agir sur les champs directement.
Est-ce que vous ne vendez vos farines qu'au Bénin ou est-ce que vous pouvez les exporter dans d'autres pays africains, voire sur d'autres continents?
Pour le moment, je n'ai pas encore quitté le Bénin. Je voudrais embraser tout le Bénin d'abord avant de chercher à aller à l'extérieur. Mais à tout moment, si j'ai le marché d'exportation, facilement je vais parce que mes farines répondent aux normes et puis j'ai les papiers pour pouvoir exporter.
Hier, vous avez quand même poussé un petit coup de gueule, comme on dit,
concernant
justement cette volonté d'exporter. Et vous avez un exemple très concret avec la Belgique. Expliquez-nous cela et en quoi vous êtes pénalisé, vous, producteurs, transformateurs africains.
Voilà, il y a beaucoup de produits chez nous qui ne répondent pas aux normes. Il y a beaucoup d'amateurs. Ils ont mélangé pas mal de choses et ils ne veulent même pas aller faire les bilans. Dans ces conditions, ceux qui vont recevoir de l'autre côté, ils vont imposer des normes. C'est comme ça, on est allé sur Market Access Map pour voir si tu veux exporter le pays d'origine et le pays de réception, quelles sont les conditions. Avec les farines, on a vu que la Belgique nous impose 23 conditions. Alors que pour que ça quitte là-bas pour venir ici, c'est zéro condition. Eux là, c'est la grosse industrie, c'est pas des petites et moyennes entreprises. Ils ont dépassé déjà les BABA où nous sommes. Donc il faut que l'État investisse pour mettre aux normes l'existant. Quand on fait les bilans, on voit que les produits ne répondent pas aux normes, on va les reformuler. Donc il faut que les professeurs, les chercheurs en agroalimentaire aident, qu'ils puissent aider les entreprises existantes à se mettre aux normes. Seulement que L'État ne fait pas de ça sa politique. Il faut qu'ils mettent ça dans le programme. Parce qu'on ne peut jamais parler de lutte contre la malnutrition sans prendre ces trois piliers-là en charge chez les enfants. Il faut que ceux qui fabriquent les produits soient formés. Il faut que les unités répondent aux normes et il faut qu'il y ait l'analyse et la reformulation des produits.
Je suis Madame Espérance Bellaoulila, chef d'entreprise dans l'agroalimentaire, où je travaille avec les coopératives et les associations paysannes. Je regroupe plus de 12 000 petits producteurs dans trois filières principales, filière manioc, riz et maïs. En même temps, j'ai la centrale d'achat. Aujourd'hui, mon rêve le plus fou, c'est d'établir les Rungis au Congo. Parce que le Congo, c'est un pays immense, avec un potentiel agricole immense. Et j'en ai cette ambition et je pense qu'on peut y arriver avec un accompagnement et surtout la volonté politique d'accompagner les secteurs agricoles.
Est-ce que vous arrivez à produire à un prix qui est abordable pour la population ou est-ce que c'est encore compliqué d'avoir des prix compétitifs?
C'est encore compliqué d'avoir de prix compétitifs avec tous les facteurs que je vous ai dit. Je produis la semoule de maïs. Ma semoule à moi, elle coûte plus cher que la semoule importée qui me vient du Brésil, qui vient de l'Angola. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'efforts pour rendre ces produits compétitifs avec le mécanisme d'accompagnement.
Donc accompagner d'une part ou est-ce qu'il faut surtaxer les produits importés?
Je suis de cet avis-là. Beaucoup de pays africains l'ont fait. Le Cameroun est devenu résilient en ce qui concerne le poulet. Il n'y a plus le poulet importé qui entre au Cameroun parce que le gouvernement a pris cette décision forte de dire qu'on va surtaxer le poulet pour arriver à la résilience. Il n'y a pas du mal. Aujourd'hui, le plus protectionniste de tout le pays, ce sont les États-Unis. C'est quelque part pour permettre justement la promotion des produits locaux et sécuriser les producteurs locaux.
Aujourd'hui, il est donc important de structurer la filière agroalimentaire en Afrique et qu'elle réponde à des normes africaines. On retrouve dans certaines farines produites sur le continent du sucre, du sel et des acides gras ajoutés qui sont une véritable catastrophe sanitaire. Certaines étiquettes trompeuses sont également un problème pour l'accès à l'information des consommateurs. En 2022, 348 aliments de complément ont été analysés dans le cadre de l'étude HKI au Sénégal. Aucun des produits analysés n'était conforme normes et seulement 10% d'entre eux avaient une vraie qualité nutritionnelle. Aminata Diop Ndoy est secrétaire exécutive du Conseil national de développement de la nutrition au Sénégal.
Nous avons aussi le secteur privé national qui s'investit dans l'agroalimentaire, qui font beaucoup de produits destinés aux jeunes enfants, mais des produits souvent qui ne sont pas des produits très adaptés par rapport à leurs conditions de 6 à 23 mois, mais aussi en termes de qualité. Parce qu'en termes de qualité, il ne faut pas que les produits soient trop sucrés, trop salés et trop gras aussi. Et il y a un certain nombre d'aliments qu'on voudrait voir dans ces produits-là. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup sur ce qu'il y ait des normes qui permettraient à tous les acteurs du secteur privé qui voudraient s'investir dans ce domaine-là, avoir à disposition des normes qui leur permettraient d'offrir des produits de qualité. Aujourd'hui, en parlant de normes au Sénégal, nous avons pu avoir des normes relatives aux farines infantiles. Et ça, c'est une bonne avancée. Nous sommes à l'étape aujourd'hui de vulgarisation de ces normes-là parce que c'est important que les producteurs, en tout cas les acteurs qui sont dans la production de farine infantile, puissent avoir ces normes-là qui permettent de rendre disponible de la farine infantile de qualité. Mais ce que nous souhaiterions au niveau de la CEDEAO, c'est qu'elle adopte ces normes-là parce qu'aujourd'hui, avec le ZLECAF, la commercialisation entre les pays, c'est libre. Et on voudrait que les farines aussi infantiles qui vont nous parvenir des autres pays, une fois que nos normes sont d'application obligatoire, que les farines aussi qui vont nous venir des autres pays soient des farines aussi de qualité. Comme ça, quel que soit le pays d'origine de production et le pays de consommateur, les enfants auront la même qualité de produit. C'est pourquoi nous disons que nous voulons que la CEDEAO fasse de l'alimentation des enfants une priorité. Et si la CEDEAO en fait une priorité, ça va être très facile. Parce que les experts sont là, donc s'ils veulent diligenter, c'est très facile.
Une question sur ce qu'on appelle en Europe le Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, c'est une évaluation de la qualité nutritionnelle d'un produit avec un code couleur. Si la qualité nutritionnelle est piètre et de mauvaise qualité, on va mettre un rouge. Si c'est une bonne qualité nutritionnelle, on va mettre du vert. Vous souhaiteriez que ce système soit adapté en Afrique?
Oui, je pense que c'est important quand même que nous ayons ce Nutri-Score adapté au contexte africain, parce que c'est important. Parce que quand je vais, par exemple, à la grande surface, j'achète des produits pour mes petits-enfants, je regarde le code pour voir est-ce que c'est du rouge. Et j'essaie même de sensibiliser mes petits-enfants sur les sucreries. On voit souvent il y a du rouge, du vert, du jaune et tout ça. En Afrique, les populations peuvent comprendre vert, jaune, rouge.
Mais même quelqu'un d'illettré peut le comprendre,
voilà,
c'est très facile.
Voilà, voilà. Donc le code couleur, c'est assez intéressant, mais il faut qu'on y arrive, qu'on choisisse nous quels sont les produits sur lesquels on voudrait mettre ça, sur quoi nous allons mettre du rouge, sur quoi nous allons mettre du jaune et sur quoi nous allons mettre du vert.
Ça dépend de la qualité nutritionnelle de chaque produit. Donc c'est une preuve scientifique.
Oui, et les experts sont là pour ça.
Alors après, le gros problème... Et j'en ai discuté avec le père du Nutri-Score en France, Serge Hetzberg, c'est le poids des lobbies de l'agroalimentaire. Ça peut être un gros problème pour la mise en place d'un tel système.
Oui, ça c'est normal, à chacun son rôle. Les lobbies de l'agroalimentaire, c'est le rôle de jouer du lobbying, c'est normal.
Mais quand on parle santé des enfants, leur rôle, ça se discute.
Mais je pense que c'est pourquoi je disais la CEDEAO a un rôle important à jouer et les pays avec l'accompagnement de la CEDEAO pourront vraiment arriver à faire face à ce lobbying-là.
Alors comment contrer la prédominance des multinationales de l'agroalimentaire dont les produits sont majoritairement consommés sur le continent ? Sini Samba est fondatrice de l'entreprise d'alimentation infantile Le Lionceau au Sénégal.
C'est un marché qui est dominé par des multinationales, donc beaucoup de produits importés sont dans le pays. Et comment faire face à cette concurrence ? Pour moi, il faudrait innover dans ce que l'on propose. Deux, il faudrait impliquer la communauté dans les produits que nous allons fabriquer. Par exemple, nous, ce qu'on a fait en termes d'innovation, on s'est dit qu'on va vraiment développer des produits à base de matières premières locales, mais avec des recettes qui sont inspirées de la tradition, des recettes qu'on a l'habitude de manger. Donc typiquement, on a sorti un tchibujun, donc qui est notre plat national, mais qu'on a reformulé et on a fait de la R&D dessus pour que ça soit adapté à un bébé de 6 mois. Et là, ça fait vraiment tout de suite une différence par rapport à un produit importé, où là, la maman qui va acheter le produit va vraiment retrouver des goûts qu'elle a l'habitude de manger, comme par exemple le solom, qui est le tamarinier noir. Parce que pour moi, je ne peux pas concevoir qu'on ait... du fruit du baobab qui est riche en vitamine C, en calcium, qu'on ait du niébé, qu'on ait du moringa, et ne pas valoriser ces produits locaux et vraiment nourrir nos enfants, les produits qui poussent ici. Donc pour moi, c'est important, donc de un, en termes d'innovation, mais de deux, il y a toute la partie création de valeur, en fait. Parce qu'on va acheter localement, on va collaborer avec les producteurs, on va former des femmes qu'on accompagne, on va acheter auprès d'elles, on va créer de l'emploi. Donc au final, c'est vraiment toute une économie circulaire qui se crée, une économie plus inclusive. Et ça joue dans le développement d'un pays. Et la deuxième partie, c'est l'implication de la communauté. Parce qu'on a beau créer un produit, mais s'il n'est pas bon et si les mamans ne sont pas convaincues, le produit ne va pas se vendre. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment collaboré avec les mamans, avoir des ambassadrices des mamans. On les a regroupées autour d'une table, leur présenter le produit, ce qu'on compte réaliser, le projet. Elles étaient très enthousiastes. Et quand le produit est sorti, eh ben, les mamans étaient nos premières ambassadrices et ont fait beaucoup de bouche à oreille sur le produit. Et donc, de fil en aiguille, les gens commencent à connaître la marque.
On m'appelle Dossa Aguemon, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. De mon point de vue, il y a diversification, c'est vrai. L'offre s'est amélioré, c'est vrai, mais pourquoi ça ne se traduit pas sur les enfants? C'est une question de choix individuel, c'est peut-être aussi une question de politique alimentaire, parce qu'il ne suffit pas de produire pour que les gens consomment, il faut aussi une politique alimentaire. Vous pouvez beau produire, si le prix est cher, vos populations ne vont pas consommer. Il faut que ce soit physiquement accessible, que ce soit financièrement accessible et que même socialement, parce qu'il y a un aspect aussi social dans l'accès aux aliments. Il y a des ménages où ce que les papas consomment n'est pas forcément ce que l'enfant consomme. Il y a des cas comme ça qui sont concrets. Il y a un adage qui dit, quand vous donnez de l'œuf à un enfant, l'enfant volera.
Vous citez l'œuf parce que, au fait, dans la nutrition de l'enfant, on s'est rendu compte qu'il y avait trois grands manques, oui. Les œufs, les légumineuses et les fruits et légumes.
Les fruits et légumes.
C'est pour ça que vous parlez de l'œuf. Et donc, forcément, si un papa ne donne pas un œuf à son enfant parce qu'on dit que plus tard il deviendra un voleur, c'est problématique.
Oui, bien sûr, c'est une perception largement répandue. Mais ça donne une idée du fait que dans un même ménage, il peut avoir de la discrimination dans l'accès à certains types d'aliments. La question de la qualité saine de l'aliment aujourd'hui a commencé par se poser de plus en plus. Puisqu'il ne suffit plus de manger, se rassasier, mais qu'est-ce que vous mangez? Tout ça, c'est des aspects que la politique alimentaire doit aussi prendre en compte.
Je suis Siméon Nanama, conseiller régional nutrition pour le bureau régional de l'UNICEF basé à Dakar au Sénégal. Quoi qu'on dise, on est quand même, en dépit de toutes les problématiques que cette région rencontre, on est dans une zone qui a fait quand même pas mal de production vivrière et animalière qui pourrait normalement devoir permettre de répondre aux besoins nutritionnels des enfants. Malheureusement, ce n'est pas le cas et en fait, on est dans un environnement qui est de plus en plus envahi par des aliments qui sont importés, ultra transformés, trop salés, trop sucrés, trop gras et qui représentent en soi un danger pour la santé des enfants de la région. Et au finish, on a conclu qu'au niveau des pays, ils doivent former des coalitions avec tous les acteurs de tous les secteurs, la société civile, les acteurs du secteur privé, les acteurs gouvernementaux, pour maintenir ce dialogue-là au niveau national, pour augmenter la production d'aliments diversifiés. Et cela va passer par influencer les politiques agricoles des pays, pour travailler à améliorer l'accès à des enfants à une alimentation de qualité. Et ça va passer par l'adoption de politiques publiques visant à augmenter l'accès, en particulier des populations les plus pauvres, à l'alimentation de qualité et enfin à promouvoir la demande à travers l'éducation des parents, des enfants qui sont les plus concernés par cette problématique. Au niveau régional et pour accompagner l'action au niveau national, nous allons apporter un appui technique aux pays dans l'élaboration de leur feuille de route pour faire avancer l'agenda de l'alimentation de compléments. Et enfin, nous voulons développer une note de plaidoyer auprès de la CEDEAO pour qu'elle fasse de cette problématique de la lutte contre la malnutrition, qui est en fait un droit de l'enfant, comme tous les autres droits auxquels la plupart des pays de la CEDEAO ont adhéré, qu'elle en fasse une priorité et qu'elle puisse accompagner les pays membres à y accorder un peu plus d'attention.
Alors, on vous demandait donc à l'issue de ces trois jours aux États de se mettre en ordre de bataille hein, pour une meilleure nutrition des enfants. Moi, je pense à des États comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les coups d'État, vous pensez vraiment que c'est la priorité de ces États ?
Nous sommes conscients que ça ne sera pas facile, c'est vrai. Et au-delà d'ailleurs des problèmes politiques que vous mentionnez, les pays étaient déjà confrontés à un certain nombre de défis. Des défis liés au changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations, qui étaient déjà un défi que ces pays devaient relever. Vient s'ajouter à cela donc l'insécurité. Ensuite, on a toutes les crises au niveau global avec leurs impacts et leurs répercussions sur les inflations, l'augmentation des prix. Et ça fait un peu trop à un certain moment pour ces pays. Et je pense qu'effectivement, ça augmente la vulnérabilité de ces pays et c'est effectivement là où les enfants sont les plus exposés à la malnutrition. Ceci étant, les autres pays ne sont pas nécessairement mieux lotis parce qu'on a quand même des pays qui, sans être dans des situations de crise comme les pays du Sahel central, ont des taux de malnutrition qui sont souvent plus élevés que ceux de ces pays-là. Donc ce que vous dites est tout à fait vrai. L'augmentation de la vulnérabilité augmente les risques pour plusieurs enfants de tomber dans la malnutrition.
L'élaboration d'une politique alimentaire digne de ce nom était réclamée par tous les participants à ce forum, mais il faut au préalable une véritable prise de conscience de l'importance de la nutrition, notamment pour les jeunes enfants. Zaoro Touahoro est le directeur général de NutriGuinée.
Déjà, il faut qu'il y ait une reconnaissance du rôle de l'alimentation de l'enfant dans nos systèmes politiques. C'est vrai que c'est inscrit dans les politiques, mais la population n'est pas informée, c'est pas tout le système politique qui est informé. Donc la nutrition, c'est transversal. Ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Nous avons besoin de l'appui, par exemple, du ministère de l'Habitat, de l'Industrie, ministère de l'Action sociale, ministère même de la Communication pour sensibiliser et éduquer la population sur ce qu'est une alimentation saine et équilibrée. C'est pourquoi il faut qu'on revoie tout le système alimentaire, pour transformer le système alimentaire. Tout passe par là, parce que l'ancien système ne marche pas. Donc il faut qu'on s'asseye ensemble, renforcer le partenariat public-privé et que l'État qui doit mettre les règles de jeu, c'est-à-dire que renforcer le système de la réglementation pour protéger les entreprises qui quand même travaillent au niveau local. Et ensuite, créer des fonds d'investissement au niveau de chaque pays. C'est seulement par ça que nous pouvons aboutir à donner de l'alimentation saine aux enfants. Il y a aussi le faible choix politique parce que la nutrition dans certains pays n'est pas encore la priorité. Dans certains pays, vous partez, il n'y a pas une direction de la nutrition. Le service qui s'occupe de la nutrition, c'est juste une division ou une section. Comment voulez-vous qu'un chef de service, chef section, puisse parler au ministre? Donc, il faut qu'on revoie la politique au niveau national. Ériger les chefs section en direction nationale de la nutrition et aussi avoir des plans d'investissement et augmenter dans le budget national l'argent ou le financement alloué à la nutrition. Parce que dans la plupart des pays, il y a une ligne d'achat des aliments et puis aussi des médicaments, tout est confondu. Donc il faut que les pays arrivent à faire des choix judicieux qui vont vers l'amélioration de l'état nutritionnel de nos enfants. Il faut que ça soit une priorité. Ma recommandation, par exemple, au gouvernement guinéen, ça serait que le président de la République puisse inscrire dans ses priorités la nutrition comme un projet présidentiel. Ça se fait, par exemple, je salue en Côte d'Ivoire, vous avez un conseiller du président de la République qui s'occupe uniquement des questions de nutrition. C'est ce qui fait que le gouvernement ivoirien investit beaucoup dans la nutrition.
Je suis Natacha Abamba, je suis chargée de programme autonomisation économique des femmes à la Fondation Batonga au Bénin. Quand on parle de pauvreté et autres, nous sommes en ville, on maîtrise, on a les informations, on a accès à Internet. Donc on saisit rapidement ces informations-là, ces opportunités. Mais qu'en est-il de ces femmes-là qui sont réellement dans les milieux ruraux et qui ne maîtrisent rien de tout ce qui se passe? Donc j'ai eu à fustiger un peu le fait qu'on ne donne pas la parole en fait à ces femmes-là pour s'exprimer, pour comprendre certains genres de choses et pour pouvoir saisir ces opportunités et aller vers le développement de leurs activités. On parle de nutrition actuellement. On a beaucoup d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié de soutien, d'accompagnement institutionnel, de financement et autres. Qu'est-ce que ces entreprises-là font maintenant pour accompagner, pour être quand même un levier pour ces groupements de femmes qui sont lésées, qui n'ont pas accès au financement, mais qui quand même font le nécessaire dans les couches vulnérables pour accompagner en fait les enfants et les familles.
C'est vrai parce que là, on parle d'améliorer la nutrition pour les jeunes enfants avec des produits locaux, transformés localement. Mais il y a un fait, c'est que tous ces produits, finalement, ils sont à un coût un peu plus élevé et donc inabordable pour ces femmes rurales qui vivent assez loin des centres urbains, vous l'avez dit. Donc, elles n'ont pas accès à ces produits, elles n'ont pas accès à l'information, elles ne bénéficient pas de la qualité nutritionnelle de ces produits. Elles sont vraiment, la, comme on dit vulgairement, la dernière roue du carrosse.
Exactement, vous l'avez résumé. Quand on parle de nutrition, on parle de farine infantile et autres. Vous voyez, ça se vend dans les grandes surfaces. Et combien de grandes surfaces est-ce qu'on a dans les zones rurales? On n'a pas ces grandes surfaces-là où ces farines-là, par exemple, sont vendues. Et tout à l'heure, dans mon intervention, je parlais de laboratoire. Comment est-ce qu'il faut formuler les produits? Comment est-ce qu'on peut accompagner ces femmes en milieu ruraux pour qu'elles puissent savoir que si on prend par exemple le maïs, il faut des protéines, il faut ci et ça, pour avoir quand même une farine très enrichie ou bien un aliment complet pour leur bébé et que cet aliment-là peut être maintenant vendu sur le plan communautaire pour bénéficier à d'autres familles qui n'ont pas en fait ces moyens-là. Donc, en fait, le débat doit être délocalisé un tant soit peu vers ces milieux ruraux-là où on peut réellement voir les femmes-là, on peut leur donner la parole, on peut leur parler dans leur propre langue pour qu'elles puissent bien comprendre, puisque Les aliments existent, elles sont dans la production de certains céréales et autres, mais le fait d'utiliser, en fait, de mélanger et d'apporter, en fait, ces solutions-là à la table, c'est en fait ça qui fait défaut et il va falloir qu'on aille vers ces femmes-là pour mieux avoir d'impact à la longue.
L'Afrique face au défi de l'alimentation infantile. C'était un reportage signé Igor Strauss. Merci beaucoup, Igor.
Merci à vous, Laurence.
À très bientôt. Allez, on se quitte avec Léon Fall et Laurine Chia. Something Inside sur RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.